France Culture.
À voix nue, Marceau Vassy. Aujourd'hui, je m'entretiens avec
Michel Troisgros, cuisinier à Ouche, près de Roanne.
Premier épisode, le bruit des cuisines. Michel Troisgros, vous êtes un prénom et un nom, celui d'une famille de cuisiniers qui officie depuis près d'un siècle à Roanne et dont le restaurant possède depuis 1968, sans discontinuer, 3 étoiles au guide Michelin. Une histoire qui commence en 1930 avec vos grands-parents paternels, Jean-Baptiste et Marie Troisgros, qui reprennent à l'époque un modeste établissement à Roanne, le Café des Platanes, juste en face de la gare, qu'ils rebaptisent à l'époque l'Hôtel Moderne. En une vingtaine d'années, ils parviennent à se faire une certaine renommée dans la région, mais ce sont surtout votre père et votre oncle, Pierre et Jean, les fameux frères Troisgros, qui vont véritablement faire de cet établissement l'un des plus célèbres restaurants du monde. Ils le reprennent en 1954, obtiennent une première étoile au guide Michelin l'année suivante, une seconde en 1965 et la troisième en 1968, que la maison Troisgros n'a jamais perdu depuis, un record de longévité inégalé. Vous êtes né, Michel Troisgros, en 1958, et c'est vous qui reprenez le restaurant familial en 1996, avant de passer à votre tour les rênes en 2023, à votre fils César, ce dernier devenant ainsi la quatrième génération Troisgros derrière les fourneaux du même restaurant. Mais ce nom, véritable légende dans l'univers de la gastronomie, ne doit pas effacer votre prénom, Michel, car vous avez réussi à faire perdurer cette excellence durant les 27 années où vous avez dirigé cette maison, tout en créant votre propre cuisine, en construisant votre propre identité, vos propres lieux. Et si l'histoire peut sembler aujourd'hui évidente, celle d'un chef cuisinier qui reprend le restaurant de son père, votre parcours et votre vie témoignent de la difficulté d'une telle entreprise. Car comment hériter d'un tel nom? Comment parvenir à s'affranchir de son héritage pour exister par soi-même? Comment faire rupture sans renier le passé? Comment se renouveler tout en gardant une même identité? Comment transmettre sans répéter les mêmes erreurs? Hériter, créer, transmettre. La recette tient en 3 mots, mais son exécution nécessite une vie entière. Bonjour Michel Troisgros.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici chez vous, plus précisément à Ouche, une dizaine de kilomètres de Roanne. C'est là que la maison Troisgros s'est installée depuis 2017. J'aimerais commencer cette série par une première question d'ordre géographique. Nous sommes dans le département de la Loire. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu cette région du Roannais?
C'est une plaine, le Roannais, qui est entouré de deux chaînes montagneuses. D'un côté, les monts de la Madeleine et de l'autre côté, les monts du Lyonnais. Au milieu de cette plaine s'écoule la Loire, le fleuve. La Loire, qui nous donne et qui nous a donné d'ailleurs tant de, à la fois de joie, enfant, et à la fois de fertilité, puisque la Loire aussi distribue tous les étangs de la plaine, les étangs qui sont poissonneux, bien entendu. Et on va dire, Roanne est traversée par la Loire. En amont, il y a un barrage hydraulique et les gorges de la Loire, en amont du barrage. Et en aval, c'est le Brionnais. C'est un pays de bocage, un pays vallonné, avec des magnifiques églises romanes, et des fermes splendides et partout des vaches blanches. Non pas des vaches à lait, mais des vaches à viande, hein, charolais. Voilà. Et Roanne est une ville industrielle. Elle a été beaucoup plus qu'elle ne l'est, où le textile était roi, en particulier la maille. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que la maison qu'on habite aujourd'hui était une maison appartenant à des industriels qui eux-mêmes fournissaient en textile les métiers à tisser. Roanne, c'est une gare pour moi, bien entendu. Roanne, c'est la Nationale 7, avant tout peut-être. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs mon grand-père est venu s'installer à Roanne, parce qu'il était bourguignon.
Justement, vos grands-parents paternels, Jean-Baptiste et Marie Troisgros, s'installent en 1930. Oui. Vous dites qu'ils habitaient en Bourgogne.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'il décide de quitter cette région pour venir s'installer ici?
Et pourtant, Dieu sait si mon grand-père Jean-Baptiste, il aimait la Bourgogne, mais pour la ville, pour la Nationale 7, pour ce qu'elle représentait en ambition, en possibilité, en effet, de faire un hôtel et restaurant, parce que à Chalon-sur-Saône, il n'était que restaurateur de ville, cafetier-restaurateur. Et là, la possibilité d'acquérir un hôtel, enfin, un fonds de commerce, parce que les murs n'ont jamais appartenu à mon grand-père, pas plus qu'à nous d'ailleurs. Voilà, mais c'est la Nationale 7 qui était à l'époque la colonne vertébrale, en effet, commerciale et touristique, entre Paris et la Côte d'Azur, et Lyon et la Côte d'Azur. Et en face, en plus, il y a la gare de Roanne. Et la gare de Roanne accueillait le train aussi qui allait de Paris à Lyon à Marseille, le PLM. Voilà. Donc, un endroit stratégique. Il ne s'est pas trompé d'ailleurs. Hein. Sa vision, son ambition a fait que voilà, il s'est posé là. Quoi.
Et cette double identité, à la fois de restaurateur et d'hôtelier, elle commence avec l'aventure familiale en 1930, elle se perdure encore aujourd'hui.
Oui.
Est-ce qu'elle fait partie de l'ADN Trois Gros, cette double identité ?
Oui, parce que très tôt, le grand-père, il y voit l'indispensable possibilité d'avoir des clients le soir et de les garder à dormir. Et aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'avec le temps, évidemment, reprendre la route, après avoir, on va dire, bien arrosé la soirée, c'est utile. Et puis aussi parce qu'un hôtel est un lieu de séjour. Et parce qu'un hôtel est donc un lieu de petit déjeuner, est un lieu d'accueil où le client est conduit dans sa chambre, est en immersion dans un espace. Alors c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'on est à Ouche, hein, évidemment, parce que là ici c'est un domaine avec voilà une vraie possibilité de ressourcement. Oui, hôtel et restaurant sont indissociables.
Et est-ce que vous savez quelle cuisine, quel type de cuisine servaient vos grands-parents en 1930, en 1940 ?
Alors, j'en ai bien reçu comme ça quelques informations, notamment à travers mon papa, des témoignages. Mon grand-père, j'étais trop jeune pour et encore pas suffisamment dans le métier pour avoir reçu de lui, en effet, les témoignages d'une époque. En revanche, les écrits et ceux de mon papa me donnent l'idée. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Hein. Il y a eu l'étape, en effet, 1930, il s'installe jusqu'à la guerre. Jusqu'à la guerre, c'est une cuisine de bistrot, c'est-à-dire simple. Marie était en cuisine, ma grand-mère. Lui, Jean-Baptiste, était le patron, était un homme de salle. Il amène avec lui de Bourgogne toutes ses connaissances et toutes ses amitiés avec les vignerons bourguignons. Donc très vite, entre la cuisine honnête et simple de Marie, à l'époque, il y avait tous les VRP, tous les gens qui passaient, voilà, et qui avaient leur ronde serviette. Et les vins, les bons plans bourguignons de Jean-Baptiste, je pense qu'ils font déjà, ils acquièrent leur petite réputation locale. Après arrive la guerre, l'hôtel est occupé par les Allemands. Il n'y a pas de chez nous, il n'y a rien eu de douloureux. D'ailleurs, mon papa a parlé de la guerre toujours avec une certaine légèreté, parce qu'il était adolescent et que les soldats allemands qui occupaient l'hôtel étaient plutôt, en tout cas, à ses dires, sympathique. Et donc arrive la période d'après-guerre, très vite, on passe à autre chose, puisque Jean et Pierre partent en apprentissage, puis après arrive une période de progrès, une période de renaissance, et là, il y a une autre cuisine qui est proposée. Alors, on pourrait dire en 40, je pense que c'est autour de... Mon papa est né en 1928, il part en apprentissage chez Point, où il rejoint Jean, son frère aîné. Donc ça doit être en 44-45. Et là, ils font tous les deux, ils sont en apprentissage chez Fernand Point à Vienne. Fernand Point à Vienne, c'était une...
La pyramide.
C'était la pyramide, ouais. C'était un 3 étoiles illustre. L'incontournable, une personnalité énorme, qui déjà était précurseur d'une cuisine d'auteur, ce qui était très rare hein, à l'époque. Hein, une cuisine qu'il assumait, des propositions qu'il assumait. Il sortait déjà du cadre d'Escoffier et des... Ouais, surtout d'Escoffier, quoi. Il avait une cuisine déjà un peu à lui. Mais c'était les prémices de ce qui va se passer des années plus tard. Ils apprennent donc pas seulement une cuisine, mais une façon d'être et de proposer la cuisine. Rencontre Paul Bocuse, tous les deux. Puis après, ils vont à Paris. Cap vers Paris, où... avec Paul Bocuse, ils se retrouvent chez Lucas Carton. Et là, ils continuent à apprendre leur métier chez Lucas Carton, mais de façon un petit peu plus académique. Ils doivent rester entre Lucas Carton, papa après travaille chez Maxime. Et puis après Maxime, il va un petit peu au Pays Basque. Et puis après Jean rentre à Roanne et papa lui emboîte le pas dans les années 54-55, par là. Et là, on pourrait dire que la proposition prend une nouvelle tournure. Puisqu'ils ont des acquis, puisqu'ils ont appris la cuisine, puisque c'est déjà des techniciens. Marie laisse les fourneaux à ses fils. Jean-Baptiste est d'accord pour faire la révolution, voire même les incite à la faire, c'est-à-dire à faire une proposition très personnelle. Jean-Baptiste était un homme qui aimait être en dehors des sentiers battus. Il n'aimait pas être conforme aux autres. Et à tout point de vue, le service de salle, bien sûr la cuisine, comme le service de salle. Donc il laisse, tout en étant sous sa direction, mais il laisse les fils en fait cuisiner comme bon leur semble, à condition que ça soit bon, c'est-à-dire bien assaisonné, que les cuissons soient maîtrisées, que ça soit chaud et sans chichi. Surtout pas de chichi, surtout pas de sophistication. Donc tout ce que vous avez appris quelque part, et notamment au Lucas Carton ou chez Maxime, vous l'oubliez. Ou vous gardez que le principal, c'est-à-dire les maîtrises techniques, et vous oubliez toutes les manières d'une époque. En fait, qui est une époque où la grande cuisine s'agrémentait de flambage, de découpage, de fioritures sur des attelées. Vous savez, les attelées, c'était ces pics qu'on mettait, en tout cas, de ce qui semblait à ses yeux, du temps perdu, de la marchandise perdue, et surtout nuire à la chaleur et à la qualité. Donc voilà, il les amène à se modifier. Et ça, c'est la deuxième étape du restaurant. Et c'est à cette deuxième étape-là où ils sont remarqués, notamment par le guide Michelin. Ils sont encore trop jeunes, donc c'est fébrile encore. Il n'y a pas une maîtrise suffisante, mais tout de même, la première étoile arrive. Et puis, ils progressent. Ils progressent pourquoi ? Parce que la clientèle les aide à progresser aussi. La clientèle qui en entend parler, qui est une clientèle de Lyon, de Paris, les premiers Parisiens arrivent. Et là, cette clientèle s'intéresse à ces deux frères, en effet, ben voilà, qui repoussent un petit peu, avec leurs propositions, les acquis, on va dire.
Et ils reprennent donc le restaurant de leurs parents en 1954. Mmh. Ils obtiennent en 1955 leur première étoile, en 1968 leur troisième étoile. Entre-temps, il y a eu la seconde étoile qui était, je crois, en 1965. près de 11 ans pour l'obtenir.
Ouais.
Est-ce que cette cuisine-là, c'est aussi les prémices de la nouvelle cuisine ? Votre père et votre oncle ont participé à ce mouvement dont il y a eu après aussi évidemment Paul Bocuse, Michel Guérard, Alain Chapelle et d'autres.
Ouais.
Ce mouvement de révolution de la cuisine.
Ils ont participé, ils ont même été acteurs principaux, hein, parce que avec le saumon à l'oseille, il arrive à ce moment-là, donc en 62. Je pense que les prémices viennent de loin, ça précède les années 60. Et même si on parle de la nouvelle cuisine des années 60 à 70, 75, on est déjà dans la mode. Plus on s'approche des années 70, plus la nouvelle cuisine, on pourrait dire, se répand. Elle se répand en France, elle se répand dans le monde même, en particulier aux États-Unis, où on parle beaucoup de la New French Cuisine. Mais eux, Jean et Pierre, tout comme Paul Bocuse, Michel Guérard, arrivent un tantinet plus tard. Alain Cendrance aussi, de l'Orchestrate. Les frères Berlin sont là dans ce mouvement en même temps. Roger Verger est là aussi, du Moulin de Mougin en même temps. Ils sont une poignée, mais vraiment, la cuisine est beaucoup moins... Il y a beaucoup moins de cuisiniers de talent en France, hein, ou alors ils sont inconnus, ou alors ils bougent pas. Ce sont des cuisiniers exécutants et escoffiers, mais pas des cuisiniers novateurs comme peuvent l'être Jean et Pierre. Mais en fait, ils se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils font. Ils ont envie de sortir des sentiers battus, initié par Fernand Point, excité par leur père. Dans ces années-là, arrivent un certain nombre de plats qui leur ressemblent. Ces plats sont le fruit de la saisonnalité, beaucoup plus forte dans la cuisine, de la simplicité, dépouillement, pas de chichi, beaucoup plus forte dans leur cuisine, du marché local, c'est-à-dire créer des liens, des passerelles avec des producteurs locaux. Donc on les entraîne avec nous dans une volonté de cultiver. Il y a, chez les trois gros en même temps, un goût prononcé pour l'acidité. Bon, ça, on y reviendra aussi, si vous voulez. Mais c'est un trait caractéristique qui est aussi propre et développé à ce moment-là. Et puis la légèreté. La nouvelle cuisine, c'est la légèreté. C'est-à-dire que si les portions sont encore ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire nourrir, elles doivent aussi étonner. C'est-à-dire étonner par leur digestibilité. D'ailleurs, c'était un mot qu'on ne dit plus du tout aujourd'hui, mais mon grand-père l'utilisait beaucoup. La digestibilité. Voilà. C'est-à-dire qu'on doit à la fois profiter d'un repas exceptionnel, mais en même temps, voilà, pas en avoir les séquelles. Voilà. Ça, c'était à peu près la nouvelle cuisine. Alors, il y avait des commandements, etc. Mais on arrive là, dans les années 60, les prémices, c'est fin 50. Les années 60, ça s'accélère. La naissance de l'escalope de saumon à l'oseille, le plat qui devient après emblématique en 62. Et puis après, un certain nombre de plats initiés par Jean et Pierre qui sont pas oubliés, mais qui ont pas été mis en lumière, mais qui contribuent à cette évolution, mais vraiment nette, hein, de la cuisine.
Michel Troisgros, j'aimerais à présent que vous nous conduisiez dans votre chambre d'enfant à Roanne, en face de la gare. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'elle se situait dans l'appartement familial ?
Alors, c'était pas un appartement familial, c'était des chambres. Il y avait... Si, il y avait, on pourrait dire que c'était un appartement, parce que, oui, enfin, un appartement tout petit. Il y avait deux chambres, celle de mes parents et celle de mon frère Claude et moi. Et au milieu de ces deux chambres, on pouvait aller de l'une à l'autre par la salle de bain, qui était au milieu, mais c'était une toute petite salle de bain. Hein. Et puis les chambres, elles faisaient 12 mètres carrés. C'était des chambres de clients qui étaient dédiées. Plus loin, il y avait la chambre d'une des tantes, trois gros, qui officiait à la lingerie. Celle est la responsable de la lingerie. Après, il y avait ma grand-mère et mon grand-père qui avaient une chambre, donc on occupait, nous, la famille Trois-Gros, à peu près 80% du premier étage. Le deuxième étage était réservé pour les clients. Le troisième étage, à 80%, était occupé par la famille de Jean. Jean, ses enfants, voilà, elle était sous mezzanine. Donc, vous dire qu'il ne restait pas grand-chose pour les clients. Moi, de ma fenêtre, d'abord, on avait deux petits lits, mon frère Claude et moi, donc on a grandi ensemble jusqu'au moment où il est rentré, lui, à l'école hôtelière de Thonon-les-Bains, 2 ans avant moi, parce que Claude est mon aîné. Et de notre fenêtre, on avait la gare, donc on connaissait par cœur. La gare, pour nous, était la voie ferrée, était un terrain de jeu. Hein. On y allait, on connaissait tous les horaires des trains, on connaissait tout le personnel de la gare de Roanne, bien sûr le chef de gare, etc. Donc on était très à l'aise dans notre quartier, place de la gare. Et on entendait le bruit des cuisines, bien entendu, de notre chambre.
Justement, c'est là où je voulais en venir, Michel Trois-Gros. C'est que votre chambre d'enfant, elle se situe donc dans le bâtiment, dans le restaurant de vos parents.
Ouais.
Et elle se situe au-dessus. Et vous entendez des bruits de la cuisine.
Alors, on est exactement au-dessus du bar. Oui, on avait le son du bar en dessous, et puis ça traînait à l'époque tard dans la nuit. Mais on avait aussi les bruits des cuisines. Et notamment les engueulades en cuisine, parce que c'était une période où ça gueulait très fort. Les chefs ne savaient pas, en effet, donner les ordres sans gueuler. C'était comme ça. Donc, j'entendais la voix de mon père, la voix de mon oncle, et puis les percussions des casseroles, des fouets, des sabayons, des mayonnaises qui se montaient, et des coups de gueule en permanence. Ouais, on entendait ça avec mon frère Claude, bien sûr.
Quel souvenir avez-vous de ces moments passés dans cet univers?
C'était dur, mais c'était joyeux. Oui, il y avait une certaine joie à travailler beaucoup. Parce que il y avait cette énergie initiée par deux frères qui ouvraient des nouvelles possibilités dans la cuisine. Et ceux qui étaient là, les apprentis, les jeunes cuisiniers, le savaient, s'en rendaient compte. Il se passait des choses chez Trois-Gros. Tous les jours, il y avait des personnalités importantes. Il y avait des journalistes qui descendaient de Paris, des Américains. On n'avait jamais vu des Américains, les premiers Japonais. Tout ça était très excitant. Et moi, je m'en souviens de ça, parce que nous, on traînait quand même un peu dans les cuisines. Pas au moment du service, mais au moment de la mise en place. Voilà, on traînait dans les cuisines, puis on participait, parce que pour gagner une entrée au cinéma, il fallait se rendre utile. Alors, avec mon frère Claude, on nous donnait une caisse d'épinards, on nous donnait un cajot de haricots verts, et voilà, alors on y passait l'après-midi, mais on était sûr, après, qu'on avait un peu de sous pour rentrer au cinéma. Ou aller à la fête foraine, ça dépend. Voilà, alors on a participé auprès de cuisiniers qui étaient là à l'époque, dans les années 68, 69, 70, etc. Il y avait Bernard Loiseau, il y avait Guy Sabois, voilà. Et évidemment, c'était des jeunes arpètes, hein, mais ils étaient plus grands que moi. Mais voilà, on était à leur côté pour équeuter des haricots verts, pour équeuter une caisse d'épinards, etc., etc. Alors, évidemment, tout ça, c'est des acquis... des jeux, on pourrait dire, c'était un jeu, c'est devenu un passe-temps, c'est devenu une possibilité de gagner des sous.
Est-ce que vous avez aimé évoluer en tant qu'enfant dans cet univers?
Alors, j'ai pas un mauvais souvenir. On peut pas dire que c'était non plus une enfance aussi drôle que pouvaient avoir certains de mes copains, quoique certains de mes copains m'enviaient. Parce que le dimanche midi, par exemple, alors qu'eux étaient cloués à la table familiale, ben nous, on déguerpissait avec mon frère et on avait champ libre le dimanche puisque les parents travaillaient. Donc, ils ne nous avaient pas vus. On ne les avait pas derrière nous. Donc, on avait cette liberté. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir souffert d'un manque de noyau familial. Non, je ne crois pas. Et après, la maison était... comment dire? Il y avait une ambiance... Une ambiance familiale assez souple, assez décontractée. C'est la cuisine qui avait, aux heures de service, la cuisine était sous pression. Et là, il ne fallait pas y aller. Et on avait des horaires pour manger, il fallait manger avant. Enfin, le midi, on mangeait à l'école. Le soir, sitôt sorti de l'école, il y avait une tablée avec les enfants, familiale avec les enfants. Je n'ai pas le souvenir, beaucoup de clients étaient déshabitués. Moi, je naviguais au milieu de tout ça. On avait nos chiens, nos chats. On recevait dans une famille, en fait. C'était une ambiance où il n'y avait pas le protocole qu'il peut y avoir. La maison n'était pas intimidante du tout. C'est vraiment un moment, une période où on recevait comme des amis, en fait. Voilà. Et j'en ai pas souffert du tout. N'empêche que dès que j'ai eu la possibilité de faire du vélo, d'avoir mon vélo et d'aller à l'école en vélo, c'est chez ma grand-mère que j'ai trouvé refuge. Je suis pas resté à l'hôtel. J'ai trois gros. Ouais.
Justement, vous parlez de votre grand-mère maternelle, ouais. Anna Forte, d'origine ouais. italienne. Je crois qu'elle venait du Frioul.
Exact.
Ouais. Vous avez passé beaucoup de temps enfant chez elle, dans sa maison à côté de Rouen.
Alors enfant, moins enfant qu'adolescent. C'est à partir de 10-11 ans, avec mon frère Claude, on allait à l'école en vélo. Et donc, moi j'étais autorisé à aller en vélo jusqu'au Coteau. Le Coteau, c'est une des communes qui est à côté de Rouen. En vélo, on peut dire que c'était 4-5 kilomètres. Mais le vélo, c'était déjà la liberté. Pour nous, c'était déjà un jeu. En effet, à l'école en vélo, c'était fabuleux. Je me souviens, on traversait le centre-ville du Coteau, les commerces, tout ça. On nous connaissait par cœur, on connaissait tous les commerçants d'ailleurs. On s'arrêtait à acheter des bonbons. Puis on arrivait donc à l'école et puis après on regagnait le soir cette maison qui était la maison de mon papa d'ailleurs, mais qui était occupée par ma grand-mère, la mémé Forte. Et donc, on pourrait dire de l'âge de 10 ans à l'âge de rentrer à l'école hôtelière à Grenoble, ouais, 15 ans et demi par là. C'est chez ma grand-mère que j'ai grandi. Voilà, c'est une grand-mère magnifique, magnifique. Parce que d'abord, elle nous autorisait tout. Mes parents ne savaient rien de tout ça, mais bon, on en a profité un maximum, beaucoup de liberté. Après, parce qu'elle cuisinait vachement bien. c'est une cuisinière de maison hors pair, quoi. Comme peuvent l'être les Italiennes, quoi, voilà, et en particulier les femmes qui tiennent entre leurs mains un savoir-faire assez habile et qui reproduisent ce qu'elles ont reçu, des recettes traditionnelles. Là, c'était du Frioul, donc elle avait reçu en campagne, puisque c'était une famille d'agriculteurs dans le Frioul. Et voilà, elle faisait évidemment, elle faisait très bien la polenta, elle faisait très bien les gnocchis de pommes de terre, et tous les dimanches, il y avait les gnocchis de pommes de terre. Ça, c'était fabuleux, quoi. Les gnocchis de pommes de terre à la sauce tomate. Enfin, c'est un grand moment, hein, les gnocchis de pommes de terre. Quand j'ai pu participer à la réalisation des gnocchis sous l'autorité de ma grand-mère, c'était extraordinaire parce que c'était un jeu. Mais souvent, quand j'étais adolescent, j'arrivais, c'était trop tard, il était fait. On se levait trop tard le dimanche matin. La mémé, elle s'était levée déjà à 6 heures du mat pour cuire ses patates entières après éplucher. Après, donc, passer en purée, elle avait un toucher de la purée de pommes de terre. Elle avait un toucher que seules les années peuvent donner. Elle jugeait, comme ça, au toucher et à l'œil, de la quantité de farine et de jaune d'œuf à ajouter. Elle se trompait jamais, hein, parce qu'il faut une texture bien particulière pour après façonner les gnocchis. Donc, fariner sa table. Donc après, façonner en boudin comme ça, donc cet appareil de pommes de terre, d'œufs et de farine, salé bien entendu. Faire des boudins qui sont découpés en rondelles au couteau, tout ça je vous le fais bref, mais il faut un sacré doigté hein, pour faire tout ça. Parce qu'il faut que le couteau soit fariné, il faut que les mains soient farinées, ça colle, bon voilà. Hein. Il faut que la table cirée, parce qu'elle a travaillé sur une toile cirée, soit largement farinée aussi. On forme le boudin, donc on coupe ses rondelles. Les rondelles doivent être, si possible, du même poids, du même diamètre, de même épaisseur. Après, on couche ses rondelles. Et puis après, vous savez, il y a cette technique sur les dents de la fourchette, comme ça. Donc, où on glisse la quenelle et on l'amène comme ça. On l'amène au doigt, on l'amène, hop, à faire une pirouette vers l'avant pour façonner les stries, comme ça, qui, eux, après, vont capter la sauce, mieux retenir la sauce tomate. La sauce tomate, ça c'est encore autre chose. En saison, elle faisait mijoter ses tomates longuement, gousses d'ail, même pas d'oignon, rien du tout, un peu de laurier, romarin, Voilà, réduit longuement. Ça, c'était quand elle était fraîche. Mais la plupart du temps, c'était une sauce tomate pasteurisée en bocaux. C'était les meilleures, d'ailleurs. Hein. C'était bien meilleur que les fraîches. Sauce tomate, la passata, comme elle disait, la passata, faite en été, mise en bocaux, stérilisée pendant 2 heures et maintenue à la cave. Est-ce que c'est le fait d'en profiter en hiver, au moment où les tomates sont pas là, qui les rendent meilleures? Moi, je crois que c'est vrai. Je crois que ces 2 heures de pasteurisation profitent au goût, à l'intensité et même à la couleur. Et donc, après ces gnocchis, pour revenir à mes gnocchis sont façonnés, ils sont striés, ils sont patiemment maintenus en attente. Et c'est là, nous, moi et mon frère, qu'on arrivait. Quoi. Souvent, les gnocchis, ils étaient alignés sur la table comme ça, prêts à donc être plongés dans une large bassine d'eau en ébullition, légèrement salée. Mais là, ça, on peut le faire qu'au dernier moment. Hein. C'est vraiment quand la famille est à table, tac, on plonge les gnocchis. Il ne faut pas que ça soit trop serré, parce que sinon, on fait de la merde. Hein. Voilà. Donc, il faut que ça soit vraiment très large, comme ça, qui respire bien. On dit que les gnocchis, quand ils remontent, sont cuits. Mais moi, j'ai remarqué que même s'ils ne remontent pas, ils sont cuits. Et... non, mais c'est vrai. Ils disent, bon, voilà, on va dire 4-5 minutes de cuisson. Tac, on les chope avec délicatesse. Dans un grand saladier, le plus grand possible. Et c'est surtout, c'est pas sur la sauce tomate, mais on balance la sauce tomate dessus. Et après, on n'avait pas de parmesan, parce que le parmesan n'existait pas chez nous. Sauf quand il y avait des cousins de l'Italie qui nous en ramenaient un bout, mais ça, c'était rare. Donc, c'était le gruyère, enfin, l'emmental à trous, là, dans la manivelle, là, vous savez, dans le petit moulin à gruyère, comme ça, tac, 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 tac. Elle en balançait dessus, etc. Puis elle apportait ça fumant le plus vite possible au milieu de la table. Et là, je peux vous dire qu'on s'en tapait. Hein. Ah là, on y allait, là. Ça, on se prépare. Et c'était tous les dimanches midi. Voilà. Et là, il y a même eu. C'était une telle tradition que mon père en a fait une chanson, vous savez.
J'ignorais.
Ah, vous savez pas, je vais dire, vous voulez que je vous la chante?
Avec plaisir, oui.
Alors, ça fait comme ça. Les gnocchis de la mémé, faites lever la pâte, faites lever la pâte. Les gnocchis de la mémé, faites lever la pâte et dégustez. Des carottes, des pommes de terre, elle en mettait parfois. De l'oignon, de l'ail entière. Les gnocchis de la mémé, faites lever la pâte et dégustez. Alors, donc, quand elle nous amenait le saladier. Voilà, on reprenait tous cette chanson-là pour la remercier, pour lui rendre ce qu'elle nous donnait, quoi. C'était vraiment... Et elle en pleurait parce que c'était son Italie maternelle, quoi, qu'elle avait quittée.
Merci Michel Croigros. Je vous donne rendez-vous demain soir pour le second épisode des Voix Nues. Ce sera l'occasion d'aborder ensemble vos années de formation auprès de grands noms de la cuisine comme Michel Guérard, Freddy Girardet ou Alain Chapelle. Et aussi de nous parler de votre goût pour le voyage ainsi que de votre rencontre avec Marie-Pierre.
À demain.
C'était À Voix Nues avec Michel Troigros, chargé de programme Daphné Abgral, réalisation Jean-Philippe Navarre, une série de Marceau Vassy, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.